Comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail? Est-ce une source d'épanouissement et d'enthousiasme ou plutôt une cause de stress et de démotivation? Alors si vous vous reconnaissez plutôt dans la deuxième catégorie, si chaque semaine par exemple vous attendez avec impatience le week-end ou les prochaines vacances, alors je vous recommande vraiment chaudement le Parcours Chance. Vous le savez, un partenaire fidèle de Métamorphose. Parce que la vie est trop courte pour être gaspillée dans un travail qui ne vous convient plus. Chance, c'est bien plus qu'une simple plateforme, c'est une communauté d'entraide professionnelle déterminée à vous aider à retrouver votre place dans le monde du travail. La méthode de la communauté Chance est unique et éprouvée. En seulement 3 mois, vous pourrez redéfinir vos objectifs professionnels et retrouver ce qui vous passionne vraiment avec l'accompagnement d'un coach professionnel dédié. Si ce message trouve écho en vous, je vous invite à passer à l'action dès maintenant. Rendez-vous sur le site chance.co pour bénéficier d'un entretien gratuit avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bonjour les amis, alors notre partenaire de ce podcast est aujourd'hui l'Institut de naturopathie humaniste qui a été fondé par Odile Chabriac qui est praticienne depuis plus de 20 ans. Et cette école de naturopathie à taille humaine est destinée à former des naturopathes, des professionnels d'excellence. Les études, qui durent entre 9 mois et 2 ans selon les cursus, se font en petits groupes, en présentiel et ou en distanciel, ce qui est très pratique et très facile, l'accent étant mis sur la pratique et l'entraînement constant à la clinique. Une personne est dédiée à la supervision de chaque élève. Vous souhaitez compléter une formation de santé ou bien devenir naturopathe? Retrouvez vite cette formation de naturopathie conjuguant excellence et bienveillance sur le site de l'Institut de naturopathie humaniste www.inh.life. Bienvenue dans la saison 6 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences.
Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h.
Il y a quelques années, en 2020, le documentaire « Derrière nos écrans de fumée » mettait sous nos yeux les rouages de la guerre pour l'attention, menée par des géants du numérique, et les effets sociétaux désastreux de l'hyperconnexion. Les neurosciences nous aident à comprendre les mécanismes sous-jacents de cette dépendance et comment l'hyperconnectivité nous procure des shoots de dopamine qui peuvent nous couper des liens avec nous-mêmes et avec les autres. Sous l'emprise de nos écrans, nous prenons moins le temps de ressentir et d'observer. Déconnectés de notre propre corps, nous le sommes aussi de notre environnement naturel. Pour en parler, mon invitée est docteure en neurosciences et psychologue clinicienne avec l'approche de la psychologie intégrative, une approche thérapeutique dite « holistique ». Elle publie un essai intitulé « Revenir à soi » aux éditions Albin Michel. J'ai le grand plaisir de recevoir Sophie Lavaux. Bonjour.
Bonjour Guila.
Merci d'être de me recevoir. Présente. Ah, c'est un plaisir. Alors justement, qu'est-ce qui dans votre parcours de psychologue clinicienne et de docteur en neurosciences vous a conduit à vous intéresser aux effets de l'hyperconnexion, au point d'en écrire un livre ?
Ah oui, alors c'est un parcours qui remonte à un petit peu loin. Au départ, j'ai fait des études de biologie. Donc je me suis intéressée aux sciences de la vie et de la Terre. Donc vraiment l'environnement naturel dans son ensemble. Et peu à peu, je me suis dirigée vers le comportement humain. Je me suis dit, mais finalement, dans les sciences de la vie, il y a une question d'équilibre. Et là, je suis face à un problème, c'est que l'humain n'arrive pas à rester en équilibre avec le vivant. Qu'est-ce qui se passe sur le plan environnemental? Et donc, il faut que je comprenne ce qui se passe dans le cerveau humain. Et là, j'ai fait des études de neurosciences, et puis petit à petit, je me suis dit, mais la recherche en neurosciences, c'est bien, j'ai fait une thèse, ok, mais j'avais envie d'être plus proche de l'humain. Et puis petit à petit, de rencontre en rencontre, il se trouve que j'ai un grand frère qui investit dans le monde du numérique à grande échelle. Je me suis retrouvée dans un groupe de réflexion, l'Agora 41, qui est un think tank à l'ANSSI, à l'Agence Nationale des Systèmes de Sécurité, la cybersécurité en fait. Et c'était vraiment, je me suis dit, mais oui, en fait, le cerveau est en train de nous pousser à fabriquer un environnement où on va tout contrôler. Et Et c'est là le point qui fait qu'on se déconnecte complètement de notre environnement naturel. Et j'ai compris par cette rencontre avec le monde du numérique que ma réponse était là. Et le numérique, c'est un peu comme une cerise sur le gâteau. En fait, ça s'est construit au fil du temps, bien avant que le numérique arrive. Mais le numérique fait qu'on se fait complètement embarquer dans une direction et c'est de plus en plus rapide.
Et donc le numérique, ce serait ce monde sur lequel on aurait la toute-puissance et cette espèce de sensation de domination.
Exactement. On peut faire reculer les limites de la maladie, de la mort, se dire même qu'on pourrait aller habiter sur d'autres planètes. On peut tout modéliser, paramétrer. On peut même complètement mimer un cerveau humain. Enfin, oui, on recule vraiment. On transcende les limites du monde physique.
Donc, ce serait la peur de l'inconnu qui nous forcerait à pouvoir nous connecter en permanence.
Je pense, oui. Je pense que c'est une manière d'échapper à notre condition humaine.
Et donc, du coup, vous prenez l'inverse, en disant qu'il faudrait moins de numérique pour revenir à soi. Est-ce que revenir à soi, c'est pas revenir à sa vulnérabilité, revenir à l'inconfort d'être humain, de revenir aussi à notre condition de mortel? Est-ce que c'est pas très douloureux de revenir à soi, finalement?
Oui, c'est douloureux, mais est-ce qu'on peut vraiment traverser sa vie sans douleur? Et la douleur, c'est comme un signal émotionnel, comme finalement la tristesse, la colère, la joie. Ça nous donne des indications sur là où on est et notre interaction avec notre environnement. Et si on n'écoute plus ces signaux-là, on n'arrive plus à s'adapter à notre environnement. Et ça, c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui de dire aux gens, bah oui, il faut pouvoir traverser la souffrance, et la souffrance peut se traverser ensemble. Mais en fait, la vulnérabilité nous amène à réfléchir à la manière dont on peut justement se donner la main et avancer ensemble. Donc, cette question que je pose dans le livre, c'est, oui, on peut aller vers le tout numérique, on peut devenir des super robots, automates, mais quel sens ça aura pour notre humanité? Et je pense que le sens de notre humanité, c'est d'être en lien.
Lorsque vous dites revenir à soi, c'est revenir aussi à une acceptation de la déceptivité du réel, ou alors comment rendre le réel aussi un peu attractif? Est-ce qu'il y a des va-et-vient? Parce que c'est vrai que vous prenez le retour au corps, etc. Est-ce qu'il y a moyen de pouvoir trouver de l'espoir dans ce monde sans le numérique?
Alors, je crois qu'il faut... on ne peut pas remettre en question l'envahissement du numérique tel qu'on le voit aujourd'hui. Je crois que simplement, on doit se poser la question, comment est-ce que je peux continuer à vivre avec, tout en étant encore conscient de ce que je veux investir dans mon existence. C'est-à-dire que le numérique va finalement faire ça peut être une sorte de tunnel où on va s'embarquer dedans et on répond aux notifications, on répond aux sollicitations, on répond. On éloigne effectivement la douleur, la souffrance. Le soir, on rentre chez soi, on allume un écran pour ne pas avoir à penser, à réfléchir. Et même les géants du web ont toutes les techniques pour ne pas nous laisser le temps ni l'espace de penser et de réfléchir à ce qu'on est en train de faire. Donc en fait, c'est retrouver un équilibre, en fait, remettre de la conscience là où on est. En fait, est-ce qu'on ressent vraiment là où on est? Est-ce qu'on est encore à l'écoute des signaux? Parce que les émotions, c'est quand même des signaux très importants qui nous indiquent nos besoins. Est-ce qu'on ressent ses propres besoins? Ou est-ce qu'on est juste en train de poursuivre une course folle en se comparant à son voisin pour vouloir faire mieux, pour être dans la performance? Et c'est ce qu'on apprend à faire à l'école.
Alors justement, ça, c'est aussi une autre problématique et non des moindres. Les écrans à l'école, le numérique à l'école, on sait que de plus en plus... il y a certains sites internet qui sont très dangereux pour les enfants. Lorsque vous parlez de l'attention aussi, hein, c'est quelque chose que l'on va retrouver dans ce retour à soi. Quelles sont les règles? Comment aider, en fait, même au niveau neurosciences, un cerveau d'enfant à pouvoir ne pas complètement faire l'impasse du numérique à un certain âge, parce que sinon ce sera une désociabilisation évidente, et en même temps ne pas le forcer à une hyper-attention que suppose l'écran?
Je crois qu'il faut simplement qu'on rééquilibre, que le jour où on met une tablette dans les mains d'un enfant, qu'on puisse aussi être en mesure de lui apprendre à nommer ses émotions, à comprendre ce qui se passe, à nommer la frustration, parce qu'un cerveau d'un enfant est très impulsif, c'est-à-dire que c'est stimulus-réponse. On a une partie du cerveau qui est le cortex frontal, qui vraiment va maturer tout au long de l'enfance et de l'adolescence, et qui arrive à maturation, entre guillemets, à 20 ans à peu près, hein, donc ça met quand même beaucoup de temps. Et pendant tout ce temps-là, on est face à une impulsivité très forte. On a du mal à réguler ses émotions de manière vraiment physiologique. Hein. Donc, si en plus de ça, on amène des outils qui nous rendent encore plus impulsifs, oui, on doit vraiment repenser la manière dont on va accompagner l'enfant à comprendre ce qui se joue pour lui.
Et quand vous dites impulsif, ça peut être par exemple des jeux vidéo ou des choses comme ça.
Oui, et impulsif, c'est vraiment la réaction à la dopamine directe.
Alors, revenons lentement, bien sûr, au béaba, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau en termes de neurosciences quand on est connecté ?
Alors, quand on est connecté, alors c'est vrai que la connexion, elle recouvre pas mal de choses. On peut être connecté à différents objets, connecté à son écran, à tout ce qui va faire défiler des données. C'est la récompense, par exemple. C'est les réseaux sociaux, le fil d'actualité qu'on peut rafraîchir à l'infini. C'est l'attente d'une stimulation. On va aller chercher cette stimulation, d'ailleurs. En fait, nous, enfin moi, je suis mon premier objet d'étude. Je suis en train de faire la queue, je sais pas, à la poste, ça met 3 heures. Ben, je sors mon téléphone et je fais défiler mes applis. Mm-hmm. Je vais l'une, l'autre. Et en fait, qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là ? Je suis en train de me couper d'un sentiment qui m'est inconfortable, qui est de l'ennui. Je suis en train de me dire, bon, ben, j'ai rien à dire aux personnes qui sont autour de moi. Mm-hmm. Je me plonge dans mon univers. Et je vais chercher comme ça, quelqu'un a liké mon truc. Ah oui. Et puis, c'est des petites récompenses comme ça qui font que... Je vais comparer ça à un rat ou une souris qui cherche un morceau de gruyère, mais c'est un peu ça, en fait, dans le cerveau.
Mm-hmm. Alors, est-ce que vous êtes en train de nous dire que ça serait bien qu'on s'ennuie plus ?
Alors, on est en train de revisiter un peu les vertus de l'ennui. Dans l'ennui, on a une partie de notre cerveau qui s'active, qui est le réseau du vagabondage mental.
Mm-hmm.
On va vagabonder, on va associer des idées les unes avec les autres, et c'est comme ça qu'on résout des problèmes, en associant des idées qu'on ne s'était pas permis d'associer parce qu'on était concentré dans une tâche. Donc le réseau mode par défaut, il s'appelle ce réseau du vagabondage mental, il est très utile pour la créativité, il va être très utile pour donner du sens à nos expériences. On a une particularité bien humaine qui est de donner du sens. Et le cerveau ce réseau du vagabondage mental permet ça. Donc, ne pas s'ennuyer, c'est se couper de cette opportunité, justement, de poser les choses, de donner du sens, de se connecter à ce qui est important.
Alors, j'avais vu une étude dans le Harvard Business... c'était Harvard Business Review, je crois, que lorsqu'on est au repos, le cerveau est extrêmement actif. Ça revient un peu à ce que vous dites.
C'est-à-dire exactement.
Qu'en fait, il ne faut pas penser que notre cerveau commence à jubiler parce qu'on est en train d'emmagasiner des informations sur Internet. Parce que beaucoup de personnes pensent que l'emmagasinement d'informations rend plus intelligent. Mais qu'au contraire, c'est quand on est au repos, dans l'ennui, dans le repos même du corps, pendant le sommeil, que le cerveau travaille le plus. Ça m'avait...
Pour moi, c'est vraiment là où tout se joue. Et on rejoint un peu les rêves. Les rêves, c'est cette activité cérébrale où tous les liens sont permis. On n'a plus du tout de limites. On peut associer toutes les idées les unes avec les autres. Alors qu'à l'état de veille, on va se mettre tout un tas de barrières. Vous voyez, les choses sont un peu compartimentées dans le cerveau et tout d'un coup, tout peut se mélanger. C'est vraiment la porte ouverte à la créativité. Et le lendemain, quand on dit « la nuit porte conseil », c'est bien qu'on a associé des choses de manière un peu inédite.
Donc, pour essayer de revenir à ce que vous écrivez, vous parlez justement de la notion de tempérance, une notion très noble, une des 4 vertus cardinales, célébrée depuis l'Antiquité grecque, prudence, tempérance, force d'âme, justice. Alors, c'est une vertu qui semble un peu désuète. Et cependant, on veut l'utiliser aujourd'hui pour essayer justement de sortir un peu de ce bonheur prêt à consommer. Comment est-ce qu'on peut la vivre, cette tempérance ?
Dans la nuance, Je pense que on a longtemps considéré que nos émotions posaient problème. Je crois qu'aujourd'hui, maintenant qu'on connaît bien comment fonctionne, enfin, on a quand même beaucoup plus d'arguments sur la manière dont notre cerveau utilise des biais cognitifs et tout ça, on va en parler probablement. On devrait plutôt se méfier de nos croyances et de nos pensées, plus que de nos émotions. Et donc, c'est un peu mettre un peu d'eau dans le vin et finalement accepter que son voisin puisse penser autre chose et que ce soit tout autant vrai. C'est très difficile pour l'être humain, ça.
Être d'accord de ne pas l'être, c'est ça?
Oui. Et surtout, même célébrer cette diversité, plutôt que de se sentir attaqué dans son être quand l'autre n'est pas d'accord.
Et c'est peut-être aussi une façon d'accepter que le réel ne s'appréhende pas forcément en 3D, mais peut-être en 4, 5, 6D, avec une façon en fait, de voir les choses profondément différentes.
Tout à fait.
Mais pour arriver à ça, alors est-ce qu'on peut revenir à des définitions simples? On va retrouver des choses qui semblent être le béaba, mais qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Qu'est-ce que c'est qu'une pensée? Qu'est-ce que c'est qu'une croyance? Comment ne pas tomber dans le piège de l'un ou l'autre?
Une émotion, c'est une réponse adaptative.
Est-ce qu'on peut aussi, bien sûr, le faire au regard des neurosciences? Ça sera très intéressant.
Oui, c'est ça. Une émotion, en fait, a plusieurs composantes. On va avoir une composante physiologique, donc dans le corps, il y a tout un tas de sécrétions hormonales, de neurotransmetteurs, qui font que l'émotion va vraiment se vivre à l'intérieur. Et puis émotion, c'est émovéré, ça s'exprime aussi à l'extérieur. On a donc la deuxième composante, c'est la posture, l'expression faciale. Et puis on a une troisième composante qui est le sentiment que ça va générer. Donc le sentiment, c'est une partie de l'émotion qui est beaucoup plus globale. Et l'émotion, elle va vraiment passer par le filtre cognitif, c'est-à-dire la manière dont je vais percevoir cette émotion pour moi dans mon contexte culturel, à travers mes croyances, etc. Et puis, à partir de ces trois composantes, il y a une quatrième composante qui se dessine, qui est l'intention. Une fois que je ressens cette émotion à l'intérieur de moi, que je l'exprime par ma posture, mon expression, que je ressens quelque chose dans mes pensées, quelle est mon intention? Comment je pense que je vais réagir? Ça configure complètement l'émotion sur le plan neurophysiologique. Ensuite, donc l'émotion est une réponse adaptative, hein, c'est-à-dire que ça va être un signal que je ressens face à un environnement. Ensuite, il va y avoir les pensées. Souvent vont être biaisées par la manière dont je ressens les choses. Donc je vais teinter mes pensées au prisme de ce que je ressens. Voilà, je pense que sur le plan cognitif. Et ensuite, les croyances, c'est ce qu'il y a bien dessous tout ça, qui fait que mes croyances vont prédire, en quelque sorte, mes émotions et mes pensées dans un certain contexte. Par exemple, si je me promène dans une forêt, et que je crois, j'ai la croyance que je peux croiser un serpent qui peut m'attaquer, alors au moment où je vais voir sur le côté de mon œil quelque chose qui ressemble à un serpent, je vais sursauter, je vais avoir une émotion. Mais si je n'avais pas cette croyance, si j'étais dans un tout autre environnement, je ne sais pas, dans ma chambre en sécurité et que je voyais quelque chose sur le côté de mon œil, je n'aurais pas eu cette réaction émotionnelle de la même manière. Donc ça dépend bien de la manière dont j'ai déjà intégré le modèle du monde dans mon cerveau. Tous les causes à effet que j'ai intégrées à l'intérieur. Ça, c'est les croyances. Et on voit ça dans les phénomènes de religion. Plus je vais croire en quelque chose, plus je vais interpréter les choses au prisme de mes croyances.
Avec des biais de confirmation.
Avec des biais de confirmation, exactement. Et en fait, j'adore parler de ce sujet parce que les gens disent « Oui, mais alors, on se trompe ». Les gens se trompent. Mais en fait, non. Je pense que chacun construit sa réalité et chacun essaye de trouver les moyens de recevoir quelque chose de plus grand que lui dans ce monde. En fait, quel que soit le degré d'ouverture, quels que soient les mots qu'on va poser, juste le fait d'ouvrir un petit canal et laisser traverser des choses, c'est déjà incroyable. Dans les croyances, donc les croyances sont en fait en d'autres termes, obligatoires pour exister. Et on ne peut pas les remettre en question, elles sont propres à chacun.
C'est ce qui nous permet de justement mettre un sens à ce qu'on voit.
Oui, mettre un sens, pouvoir interagir.
Alors justement, au niveau de la connexion, de l'hyperconnexion, hein, du numérique, on ne nous permet plus de faire ce travail finalement de croyance, puisque ce qui est présenté en lien avec, on va dire, une croyance presque universelle.
C'est ça. Il y a un phénomène d'uniformisation qui est, à mon sens, un petit peu dangereux, effectivement. On a du mal à écouter ce qui est un peu plus en lien avec soi en tant qu'être singulier.
Mmh. Est-ce que dans ce que vous nous dites, émotions, pensées, croyances, il y a des zones de cerveau qui vont être plus ou moins sollicitées au niveau neurosciences ? Et est-ce que il y a quelque chose qui pourrait nous permettre de nous sauver du numérique par justement le fait de se dire que bon, bah, même si j'ai beaucoup de déceptivité dans le monde qui m'entoure, bah, je sais qu'aller prendre un verre entre amis, en me déconnectant total du numérique, ben ça va me permettre d'allumer une zone du cerveau qui va me rendre aussi heureux, aussi plein de joie que si j'étais en train de surfer en termes de dopamine.
Oui. Alors, il y a beaucoup de choses dans votre question. Les zones du cerveau, quand on parle d'émotions et de pensée et de croyances, en fait, pendant longtemps, on a pensé on appelle ça le cerveau triunique de MacLean. C'est un neurobiologiste qui, dans les années 60, avait établi cette théorie en disant qu'on avait un cerveau émotionnel, enfin
limbique, voilà, le fameux,
voilà. Mmh. et un cerveau plus vraiment, c'est l'intelligence, la logique. Donc, on a séparé les deux pendant longtemps, et en fait, aujourd'hui, on sait que ce modèle déjà est obsolète. Et qu'en fait, notre système cognitif s'est vraiment formé en intrication totale avec le système émotionnel. On ne peut pas séparer les deux. Donc ça, c'est très important à comprendre sur le plan neuroscientifique. Et donc, on est dans une globalité. Le cerveau fonctionne de manière globale. Et après, du coup, j'ai oublié la suite de la question.
Alors déjà, juste savoir où naît l'émotion. Donc on est d'accord que l'émotion, elle est partout dans le cerveau. On ne peut pas lui dire uniquement limbique ou on ne peut pas lui dire uniquement reptilien, vous savez.
Si, en fait, alors oui, il y a un système limbique, c'est important quand même de le dire, bien sûr, mais il ne fonctionne pas de manière autonome tout seul. Il est complètement alimenté et complètement connecté au reste du cerveau. C'est juste ça que je voudrais...
Bien souligner. Et alors, une fois que maintenant, on sait un peu où se trouvent les émotions et comment est-ce qu'ils interagissent avec le reste du cerveau, comment nous procurer, en particulier pour une réalité déceptive, la joie, l'émotion joie que l'on ressent quand on est complètement absorbé dans le numérique, et surtout en rapport au corps. Je proposais d'essayer de ressentir la joie d'être tous ensemble quand on sort prendre un verre avec des amis ou un temps familial. Comment est-ce qu'on peut essayer de se dire, OK, plutôt que d'aller chercher ce contentement que j'ai dans la toute-puissance d'un contrôle numérique, je vais le trouver dans un moment où je sais que je vais ressentir la même chose au niveau plaisir, même émotionnel, dans le réel.
Je pense que là, on touche du doigt la différence entre plaisir et bonheur. Pour moi, le bonheur, c'est venir nourrir de manière durable mes besoins. Et le plaisir, ça peut justement être cette succession de petits plaisirs qui court-circuitent en quelque sorte vraiment nos véritables besoins. Je pense que c'est là où le numérique nous envahit un peu trop. Il vient court-circuiter nos besoins fondamentaux, en fait. Parce que moi, quand je passe une soirée à faire défiler mon fil d'actualité et que j'éteins mon téléphone, je ne sais pas pourquoi, je ressens une forme d'anxiété à l'intérieur
de vide.
Moi, dans mon corps. Ouais, une sorte de vide. Vraiment un sentiment d'absence de sens.
Et d'avoir perdu son temps.
Ouais. Enfin, en tout cas, voilà, je sens que je n'ai pas comblé ce qui était important pour moi. Et pourtant, j'ai eu quelques petits shoots de dopamine en allant à droite à gauche. Donc, c'est plutôt ça, c'est plutôt sur la durée. Et on a une partie du cerveau qui est le cortex frontal, qui est donc juste derrière le front. Et une partie du cerveau qui s'est surdéveloppée chez l'humain par rapport aux autres espèces animales et qui permet de planifier, de résoudre des problèmes et aussi de mettre en place des comportements dirigés vers un but. Et on met en place des comportements dirigés vers un but en attribuant une valence positive, notamment quand on y va vers ce but, à nos comportements. Et donc c'est là où on va mettre en place, je sais pas, imaginons, je voudrais changer de travail, et je suis en train de m'interroger sur ce qui est vraiment, important pour moi, être en lien avec mes collaborateurs, enfin, je ne sais pas quelle cause peut me mobiliser. Et je peux avoir ça en tête, et pourtant être tellement dans les petits plaisirs éphémères de tous les jours que je peux en oublier mon objectif final et traverser la vie sans avoir jamais pu mettre en place ce qui était réellement important pour moi. Et ça, c'est le cortex frontal qui est en fait court-circuité par ces successions de petits plaisirs. Exactement de la même manière que quand on veut maigrir. Et en fait, parfois, on se rend compte qu'on va avaler un pot de glace parce que le but à atteindre a l'air très difficile. Et donc, on va court-circuiter. On ne va pas atteindre le but juste parce qu'il y a un plaisir plus immédiat tout de suite. Vraiment, le cerveau se fait avoir par ce fonctionnement-là. Et donc, c'est comme une gymnastique. Il faut se rappeler un peu chaque jour, au fait, qu'est-ce qui a du sens pour moi ? Et c'est là où on va vraiment remettre un peu la bonne direction.
Et c'est compliqué, parce que c'est vrai que ça demande une discipline. Peut-être que c'est aussi ça, cette volonté d'être dans le numérique, sortir de la discipline d'être humain.
Oui, ça demande une discipline. Et en fait, je parle même dans le livre de retrouver le désir de vivre. Je crois que, par exemple, pour moi, ça a été une nécessité. Je me questionne pourquoi est-ce que ça a été si nécessaire pour moi ? Qu'est-ce que je pourrais proposer comme recette aux autres pour que ça devienne aussi nécessaire pour eux ? Et finalement, pour l'instant, j'ai pas trouvé d'autre chose que de questionner. D'ailleurs, le livre ouvre beaucoup de questions et je crois que c'est à chacun de saisir ce que ça fait résonner en lui en fonction de ses croyances, de son éducation. Il n'y a pas de conformisme à avoir, il n'y a pas de réponse toute faite. Mais déjà, s'interroger sur ce qu'on veut vraiment investir dans cette existence. Et je pense que moi, j'ai un rapport à la maladie, à la souffrance, à la mort qui est particulier parce que je travaille dans un hôpital où on a des personnes qui ont vraiment beaucoup de difficultés à respirer, notamment. Je suis dans un service où on travaille sur le handicap respiratoire. Donc on n'a plus l'oxygène, donc on ne pense qu'à respirer. L'existence se rétrécit en fait autour de ce souffle qui manque, comme dirait mon chef Thomas Milowski. C'est vraiment le rapport à notre vulnérabilité dans tout ce qu'elle a de plus terrible et qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et il y a un livre formidable de François Bourgognon qui s'appelle n'arrêtez pas votre vie avant de l'avoir commencé ou quelque chose comme ça. Mais c'est si je mourais demain, où est-ce que j'aurais mis de la valeur? C'est qu'est-ce qui aurait été important pour moi de transmettre? En fait, c'est le sentiment d'être vulnérable et mortel qui donne du sens à la vie. Et on oublie trop souvent à quel point on est vulnérable et mortel, en fait.
Et c'est justement pour sortir de cette condition de mortel que l'on va vers le numérique.
C'est ça. Et c'est une course sans fin.
Et ce qui est terrible, bien sûr, c'est que la société en joue, puisque, bien entendu, comme on est dans une possibilité d'avoir tout ce qu'on veut au niveau numérique, eh bien, pourquoi est-ce qu'on irait chercher la souffrance ? On revient à ce qu'on disait, et à cette déceptivité que nous propose la vie de tous les jours. D'ailleurs, vous parlez aussi d'un autre très grand chercheur, Viktor Frankl, le père de la logothérapie, sur le sens de la vie. Donc, le but, ce n'est pas de trouver la paix intérieure. Le but, c'est vraiment de pouvoir donner une certaine valeur à sa vie.
Oui, et je crois que la paix intérieure est une conséquence. Effectivement. Quand on a trouvé peut-être sa place ou quand on a mis du sens, quand on se rapproche de ce qui est important pour soi, on trouve une paix intérieure. Ouais, je pense que c'est un effet secondaire.
Alors, qu'est-ce que vous préconisez vraiment, j'allais dire, comme docteur, en termes d'ordonnance, qu'est-ce que vous préconisez comme nombre de secondes, de minutes, d'heures à passer par jour sur le numérique? Pourquoi faire? Est-ce que c'est pour surfer, récolter des informations? Est-ce que vous dissociez le fait de surfer au fait de répondre à des emails? Comment est-ce qu'on essaye d'avoir une ordonnance saine sur cet outil qui, il est vrai, déborde dans nos vies de tous les jours?
Alors moi, là, j'ai envie de revenir au système nerveux. Et notamment le système nerveux autonome, qui est cette partie du système nerveux qui fonctionne sans qu'on ait besoin d'y penser, qui nous fait respirer, qui régule toutes nos fonctions physiologiques. Et dans ce système nerveux autonome, on a deux branches qui oscillent, deux activations différentes, le système parasympathique, le système du repos, de la digestion, de la récupération, et le système sympathique, celui du stress qui fait qu'on va interagir, qu'on va combattre, fuir, etc. Et tout l'enjeu, c'est de pouvoir, après un stress aigu, trouver des phases de récupération. Si on arrive à faire ça, alors c'est très bien, on se sent en équilibre. C'est cette fameuse recherche d'équilibre qu'on a dans le développement personnel. Alors, comment on fait? Ça passe déjà par écouter à l'intérieur de soi l'état dans lequel notre système nerveux est. Est-ce que je suis plutôt là en parasympathique ou plutôt en sympathique? Et ça, c'est ce qu'on appelle de la neuroception. On a longtemps parlé à l'école, on n'apprend que ça, les cinq sens, mais on ne parle pas des sensations internes. Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi? Et pourtant, ça fait tout autant partie de notre sensorialité. Et la neuroception, c'est ça. C'est la capacité à ressentir quand mon thorax est un peu serré, quand j'ai des papillons dans le ventre ou des choses qui me dérangent dans la gorge. Et comme ça, je peux être conscient, ah oui, là je ressens un peu d'anxiété. Ah oui, là je me sens fatiguée. Tous ces signaux internes du corps qui nous indiquent ce qu'on doit faire. Et là, si je suis capable de ressentir que je me sens un peu anxieuse, un peu fatiguée, je déconnecte beaucoup plus facilement. Ah là, je vais laisser de côté mon téléphone. Je vais vraiment m'allonger, me prendre une petite couverture et un bouquin. Et là, je ressens peut-être à l'intérieur de mon corps quelque chose qui s'apaise. Et si ça s'apaise, c'est que c'est la bonne direction. Revenir à soi, c'est ça. C'est être à l'écoute de ce que ça me fait, de m'embarquer dans une activité et être capable de revenir si jamais c'est pas OK pour moi. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui, c'est qu'on a tous les outils numériques pour avoir plein de réponses à plein de choses. Et cette course folle à la connaissance, à la performance, nous déconnecte de plus en plus à notre sensorialité, la neuroception, qui nous permet en fait de trouver ces espaces de récupération. Donc je dirais que je sais qu'il y a plein de gens qui ont des recettes magiques un peu, magiques. Par exemple, mettre son smartphone en noir et blanc pour ne pas être attiré par les couleurs, etc.
Exactement, j'ai entendu ça, enlever les notifications, surtout plus le faire vibrer.
Exactement, la montre connectée, moi j'avoue que j'aime pas trop ça, mais je peux comprendre qu'il y ait des gens qui aient besoin d'en avoir une. Et en fait, moi je suis pas tellement dans la liste de ce qu'il faut faire, je suis plutôt dans une démarche de finalement apprenez chacun à ressentir ce dont vous avez besoin. Et pour ça, moi c'est vrai que j'utilise beaucoup la méditation de pleine conscience, parce que la méditation de pleine conscience est une pratique qui nous permet de ressentir ce qui se passe dans le système nerveux. Donc finalement, de se reconnecter à cette neuroception si importante.
Comme un microscope, en fait. Tout d'un coup, on voit l'intérieur.
On voit l'intérieur et on peut du coup s'adapter. Donc c'est finalement, il y a des gens qui vont pouvoir être multi-connectés, multitâches. J'ai pas envie de leur dire ce qu'ils doivent faire. Par contre, j'ai envie de leur dire, écoutez, si ce que vous faites vous convient vraiment. Et si la réponse est non, ça me déborde, je voudrais que ce soit autrement, alors effectivement, trouvez les moyens de reprendre contact avec votre système parasympathique et revenir au contact de ce que vous ressentez. Et là, on peut passer par toutes les pratiques dites psychocorporelles, le yoga, le qigong, la cohérence cardiaque, où on va reprêter attention à son souffle et même respirer de manière à rentrer en résonance avec la régulation naturelle de sa pression artérielle. C'est quand même fascinant, cette pratique. Et comme ça, on va optimiser ce qu'on appelle le tonus vagal. C'est notre capacité, justement, à récupérer après un stress. C'est comme un muscle. On va muscler notre capacité à récupérer après un stress aigu. Et je raconte cette histoire dans le livre du zèbre. Je
ne sais plus si c'est ça. Bien sûr.
Voilà. Histoire que j'aime bien raconter, c'est un biologiste américain, Sapolsky, qui a écrit un livre, en fait, qui s'appelle « Pourquoi les zèbres n'ont pas d'ulcère ?» Et il décrit cette petite histoire, il dit « Bah voilà, un zèbre qui broute dans la savane, et puis il y a un lion qui arrive, ou une lionne, qui l'attaque. » Donc le zèbre a son système sympathique, qui se met complètement en émoi, et il part au galop avec l'accélération du cœur, enfin voilà, tout ce qu'on connaît du système sympathique qui s'emballe. Il échappe au danger, donc on voit bien que c'est une réaction adaptative très forte. Le stress a été très utile, le stress est vital. Et puis, une fois qu'il est loin du danger, il se retourne. Il regarde autour de lui, il ne voit plus de danger. Alors qu'est-ce qu'il fait, le zèbre ? Il rebroute quasiment instantanément. Le danger est parti. Sauf que l'humain, lui, dans cette situation, va utiliser son cortex frontal pour planifier, résoudre le problème en se disant « Mais oui, la prochaine fois, si ça arrive, il va même se repasser en boucle l'événement en se disant « J'aurais dû faire ça. Ah oui, mais si j'avais fait ça, ça aurait été autrement. » Alors, c'est très bien parce que la prochaine fois qu'il y aura une attaque, il pourra construire une cabane dans les arbres et puis il va échapper au danger. C'est exactement l'histoire de toutes les sécurités qu'on a mis en place aujourd'hui pour ne plus être en danger, justement. Mais on se fait avoir par ce système de résolution de problèmes, parce que ce système qui s'enclenche automatiquement, il nous empêche de redescendre après le stress. Mmh. Et c'est ça tout l'enjeu, c'est d'arriver à redescendre. Et quand on va rester activé dans le système sympathique, qu'on va nourrir nos angoisses en allant sur Internet, en allant sur tous les forums, en cherchant à savoir qui a la vérité sur ce qui s'est passé, etc., on va continuer à maintenir un niveau d'activation du système sympathique très élevé et on va rester comme ça sur un stress lancinant, chronique. Et l'humanité aujourd'hui est sursollicitée de tout ça et a du mal à trouver des espaces de récupération. Et je crois que l'enjeu, il est vraiment là. Un peu comme le zèbre, on se retourne et on se dit « Mais en fait, il est où le danger, là ?»« Ah, il n'y en a pas. Bah, je prends un petit temps de pause. »
Mais pour éviter de mourir par anticipation. Ah, c'est vrai que l'histoire du zèbre est très belle. On a vu aussi certains symptômes arriver de personnes pour lesquelles le repos est anxiogène. C'est-à-dire des personnes qui ne supportent pas de pouvoir ne rien faire. Et quand je dis supporte pas, c'est-à-dire que ça peut être même une souffrance physique pour eux d'être déconnectés, c'est-à-dire de se retrouver seuls, à se forcer à essayer de se reposer parce que c'est imposé pour continuer à fonctionner. Est-ce que vous avez quelque chose pour eux ?
Bah, c'est ça que j'aime bien dans la méditation de pleine conscience par rapport à la relaxation. La relaxation a un objectif qui est de se relaxer. Et quand on dit à quelqu'un d'hyper anxieux « relaxez-vous », c'est encore plus angoissant. Et la méditation de pleine conscience dit « Ah, vous êtes angoissé, bah ok, regardons cette angoisse. » Il y a un peu juste le fait d'accuser réception de ce qui est là va désengager le système nerveux de la lutte et du combat. Et donc, le fait de finalement arriver à être relaxé est un effet secondaire de la méditation. Et j'aime bien cette manière de voir parce que on s'impose rien, on est juste tel que l'on est et on s'observe, on met de la conscience. Par exemple, j'ai une insomnie, j'arrive pas à dormir. Je peux effectivement me dire non, mais il faut que je dorme demain, sinon je vais arriver en retard à ma réunion, ça va pas, je vais pas réussir mon examen, je ne sais pas ce qui peut me passer par la tête. Et j'ai déjà un système nerveux qui est en situation de stress et je vais rajouter une couche de stress. Donc là où j'ai une action, c'est pas sur la première couche de stress parce qu'elle est là. Je me réveille, j'ai une insomnie, je suis un peu stressée, ok. Mais je peux jouer sur ce qu'on appelle la deuxième flèche, c'est-à-dire la couche de souffrance que je vais me rajouter en plus en essayant de lutter contre quelque chose qui est de toute façon déjà là.
On dit toujours que l'angoisse, c'est la peur d'avoir peur. Et c'est vraiment cette deuxième couche qu'il faudrait pouvoir enlever. Et
exactement,
qui est entretenue justement par le numérique, de par toutes les possibilités de biais de confirmation qu'on peut y trouver, en particulier vis-à-vis des différentes croyances alimentées. Sophie, c'est déjà la fin de notre discussion. Merci, merci d'être venue sur Métamorphose.
Merci beaucoup.
Pour nous expliquer justement comment, grâce à moins de numérique, on peut revenir à soi. Je rappelle le titre de votre essai, Revenir à soi, aux éditions Albin Michel. Merci à vous et à très bientôt dans Métamorphose.
Merci Guilla, à bientôt.
Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Deezer et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com.
Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h.